da 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 da
Histoire de Palestine. Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12. Aujourd'hui, épisode 7, parcours d'un juif antisioniste en France, entretien avec Dominique Nathanson.
Bonjour Dominique.
Bonjour.
Je suis donc Nicole et je suis avec Daniel.
Bonjour Dominique.
Bonjour.
J'ai eu l'occasion de travailler avec toi à l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix. Et nous avons, Daniel aussi est membre de cette association. Et nous avons eu l'occasion de lire le parcours de Juifs antisionistes en France. Et nous avons choisi ton parcours d'antiraciste et antisioniste. Voilà.
Alors, tout d'abord, Dominique... Quelles sont tes origines familiales ?
Bon, je vous remercie d'abord de m'accueillir sur cette radio dont le nom rappelle des combats prestigieux et dans une émission marquée par la solidarité. Alors, ma famille est originaire de Roumanie. En fait, ce sont trois frères migrants de Roumanie, Aaron, Albert, Julien, qui ont eu trois enfants, Jacques, Myriam, Lucien. Et à la fin de la guerre, il ne restait plus que un seul des frères qui a survécu, mon oncle Albert. Aaron et Myriam ont été déportés, assassinés à Auschwitz. Lucien a été fusillé devant ses parents qui se sont suicidés plus tard. Et donc, c'est évidemment cette histoire marquante qui me permettent de définir comme étant un juif de la Shoah.
Oui, donc ton histoire commence très tôt, effectivement, hein, parce que tu racontes tous ces épisodes douloureux. Et comment est-ce que, tout jeune adolescent, tu prends conscience, tu t'éveilles à cette histoire-là ?
Je pense que c'est même avant l'adolescence, mais simplement... Au départ, c'est pas une histoire juive, c'est pas une histoire politique, c'est une histoire familiale, et c'est le silence de mon père sur ces questions-là. Il n'en parle pas et il ne faut pas en parler. Il faut le protéger. Ma mère joue ce rôle de protection. Et je me souviens, alors il y a évidemment de la reconstitution dans ce souvenir, mais je me souviens que quand j'avais 6 ou 7 ans, nous habitions une maison au Havre, une grande maison bourgeoise complètement en mauvais état et qui avait été séparée en appartements, et il fallait descendre tout en bas du parc pour aller à la boîte aux lettres, et je me souviens être descendu avec la petite clé de la boîte aux lettres, et j'étais volontaire pour faire ça, et après coup, je me dis que j'allais y chercher une lettre qui aurait dit à mon père que sa petite sœur était pas morte dans une chambre à gaz à Auschwitz. Alors évidemment, il y a de la reconstitution là-dessus, parce qu'à l'époque, je ne sais pas ce que c'est qu'une chambre à gaz, je ne connais pas le mot à Auschwitz, il ne me dit rien, mais je suis très profondément marqué par le silence dès l'enfance et... je tire de toute cette histoire deux idées principales. D'abord qu'il faut vaincre ce silence, et ce sera une partie de l'action de ma vie. Et puis aussi, ne jamais être du côté des bourreaux. Pour moi, ce n'était pas une question juive, c'était mon père, c'était une blessure transmise. Je n'ai pas été élevé dans le judaïsme. Je ne vais à la synagogue que lorsque mon frère se marie, ce qui arrive déjà, c'est déjà arrivé deux fois. Mais bon, je m'intéresse un peu aujourd'hui aux apports du judaïsme à la culture et aux valeurs universelles du judaïsme, mais je suis athée. Et je suis donc un juif de la Shoah. Et c'est seulement dans les années 80, au moment de la naissance de ma fille, que j'ai réussi à bousculer un peu le silence de mon père quand j'ai écrit un peu cette histoire familiale dans un site internet, on en reparlera.
Donc en fait, c'est cette histoire de la Shoah qui est en toi et que tu as un jour envie de raconter.
Oui, alors... elle développe chez moi, adolescent, puisque c'est la question que tu posais tout à l'heure, une rage contre la violence, contre les massacres. Simplement, à l'époque de l'adolescence, c'est plutôt la guerre du Vietnam que la Palestine qui m'intéresse. Je me souviens quand même de la guerre d'Algérie, j'ai une dizaine d'années. Je me souviens de visiteurs basanés et mal rasés. J'ai appris, mais après coup, hein, que mon père, qui était silencieux certes, mais déjà actif dans la question des droits de l'homme, etc., faisait partie d'un réseau d'aide au FLN au Havre, et que les personnages que j'avais vus dans la maison, les étrangers que j'avais vus, étaient des responsables de la Fédération de France du FLN. Et donc, l'enfance, l'adolescence, c'est surtout une révolte contre l'injustice sociale, contre... on arrive à mai 68, je suis en seconde à l'époque. Et puis, il y a un tout petit peu la Palestine. En 67, j'ai 16 ans... il y a un court moment d'inquiétude, ça ne dure que 6 jours, les juifs sont assaillis de toutes parts, ils risquent d'être exterminés à nouveau, enfin, c'est l'image qu'on en a, que tous les juifs de France avaient à l'époque. On sait aujourd'hui que c'était pas du tout ça et qu'il y avait bel et bien un plan de conquête de l'armée israélienne. Cette histoire de Palestine, j'y comprends pas grand-chose. Je suis pas du côté des forts habituellement, et donc je me pose pas trop la question. Et c'est comme une sorte de petit caillou dans ma chaussure. Il y a un truc qui va pas là-bas, mais je sais pas très bien quoi en fait. Donc adolescent, très vite, je suis dans le comité Vietnam de Rouen. Très vite, je crée en juin 68 la section lycéenne du PSU, le Parti Socialiste Unifié, etc. Et ensuite, j'ai un parcours politique de militant d'extrême gauche, je me bats plus contre l'apartheid sud-africain, le soutien aux guérillas d'Amérique latine, aux Chiliens en 73, plus que sur la question de la Palestine.
Visiblement, tu es attiré par toutes ces questions politiques et puis l'histoire. Est-ce que ça va avoir une influence sur ton parcours après ?
Alors l'histoire, oui, évidemment. L'histoire est ma passion dès le début du collège, peut-être même avant. Je me souviens du soin avec lequel j'illustrais mon cahier d'histoire en cinquième, et là déjà j'ai le désir de devenir enseignant, d'enseigner l'histoire. Et évidemment, d'enseigner l'histoire, c'est un moyen que j'utiliserai pour briser le silence dont je parlais tout à l'heure, mais le briser auprès d'élèves, et ce sera la passion pédagogique de ma vie. Avec, dans mes débuts d'enseignant, sans doute une illusion que j'ai combattue depuis, l'illusion que l'enseignement de la Shoah suffirait pour combattre le racisme, l'extrême droite, et délivrer les peuples colonisés, etc. L'antiracisme auquel j'adhère à ce moment-là, c'est un antiracisme moral. Bon, mais en même temps, assez vite, quand je deviens enseignant, assez vite, j'ai dans mes classes des élèves racisés, des élèves musulmans, des élèves noirs, et pas des élèves juifs. Et donc, la transmission, elle doit passer à un moment donné, on doit se poser la question, je transmets, mais pourquoi j'impose l'histoire juive à des jeunes qui, eux-mêmes, connaissent un racisme dans leur vie personnelle, et ça va contribuer à mûrir dans ma carrière d'enseignant. Voilà. Je dois dire aussi que dans cette période de mes débuts d'enseignant, comme je suis aussi un militant antifasciste qui lutte contre le Front National en particulier, ça me vaut quelques ennuis, hein, des coups de téléphone la nuit me souhaitant qu'on me retrouve dans une chambre à gaz, ma voiture renversée sur le côté au milieu de la chaussée devant chez moi et avec des croix gammées gravées dans la peinture. Je sais aujourd'hui à peu près qui est l'auteur de ces qui vient du FN. Bon, il est mort depuis, mais Dieu est son âme, mais voilà. Et ça me, dans toute cette période là j'enseigne la Shoah, et aussi je forme des enseignants à l'enseignement de la Shoah. Et là je constate un truc qui commence à me gêner. C'est que il y a tout un discours qui prétend que on ne peut pas enseigner la Shoah en banlieue, dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, les élèves ne veulent pas entendre parler de la Shoah et que les profs sont très embêtés pour le faire. Je me souviens d'un certain livre où je participais à une réflexion, dans ce cas un salon de l'éducation, à une table ronde. Il y avait là ce genre de prof qui a enseigné 3 mois en banlieue et qui ensuite se répand dans les médias en affirmant que c'est l'enfer, la banlieue, etc., et l'enseignement. Il explique, on ne peut pas enseigner la Shoah dans une classe parce que les Arabes, au fond de la classe, ricanent. Alors évidemment, quand j'ai repris la parole, la première chose que j'ai demandé, c'est pourquoi sont-ils au fond de la classe ? Il y a quelque chose d'ahurissant dans cette façon de présenter les choses. On imagine un enseignant qui arrive avec un balai dans le derrière et qui... Si je vais enseigner la Shoah, il faut que je sois impitoyable, il faut que je n'accepterai aucune question sur la Palestine, c'est hors de question. Avec un enseignement d'autorité, un enseignement qu'il fait contre ses élèves. Et évidemment, ce n'est pas la voie que j'ai choisie. C'est au contraire essayer de faire très différemment.
Alors justement, Dominique, qu'est-ce que tu as utilisé comme méthode, comme pédagogie pour enseigner à tes élèves ?
Alors, il y a, je pourrais parler de 2 choses. J'ai emmené des classes d'élèves à Auschwitz. Et puis, j'ai beaucoup utilisé l'Internet dans ses débuts. Quand l'Internet se répand vers 1995, les négationnistes tiennent le haut du pavé, et en particulier Ahmed Rami, sur Radio Islam, c'est un ancien officier marocain proche du général Oufkir, et qui tient un site en Suède qui est clairement antisémite, négationniste, etc. Et alors, en plus, il est arabe et musulman, donc ça va se déchaîner, en particulier dans la communauté juive, contre Ahmed Rami, à juste titre, parce que le négationnisme n'est pas acceptable, et l'antisémitisme non plus. Mais mais pas du tout avec une visée active pour lutter contre le négationnisme. Pour moi, il faut pas. Ce que veulent ces gens, c'est interdire l'accès au site d'Ahmed Rami. Et moi, je pense que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut saturer l'Internet d'informations justes et vraies, offrir à la jeunesse des sources fiables, s'appuyer sur deux valeurs juives, pour moi, la vérité et la justice. Et je lance donc en 97 un site Internet qui s'appelle Mémoire juive et éducation. J'y réponds aux questions des enfants et des adolescents en créant à chaque fois une nouvelle page. Il y a une question, je la prends telle qu'elle est et je réponds aux questions. Et les questions qui arrivent, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent le décalage qu'il y a entre la volonté d'enseigner contre l'antisémitisme et la question du racisme actuel. Les questions, par exemple, portent sur Hitler et les Noirs. Qu'est-ce qu'il disait Hitler des Noirs? Alors, on peut expliquer qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs en Allemagne, mais ça répond pas à la question. Il faut aller chercher plus loin, parler des Noirs dans les camps de concentration nazis, par exemple. Alors, Hitler et les Arabes, la Palestine, naturellement, dont il faut, qui arrive évidemment dans la discussion. Et il faut assumer, aucune question pour un enseignant, pour un pédagogue, aucune question n'est interdite, et celle-là, en toute leur légitimité, à partir du moment où elles prennent leur source chez les élèves eux-mêmes, leur questionnement par rapport à la vie et par rapport au racisme. Alors, dans la foulée, on me demande d'écrire un livre pédagogique en direction des enseignants. J'enseigne avec l'Internet la Shoah et les crimes nazis, dans lequel j'essaie de développer des pédagogies actives qui ne mettent pas les Arabes au fond de la classe, comme dit l'autre, mais qui, au contraire, les lancent dans des recherches, dans des travaux de groupe, etc.
Wenn Mirwellen singen in Zeit von die Karschen von Drossels Gelächter von Nachtigern in der Jontev dem Grinen die Mädlech will hon noch kuschen in der Sinnen verliebte die Herzer wie Sunen zerglüht. Wenn mir Wellen singen in Zeit von die Karschen, wird Hecher noch klingen der Nachtigall's Lied. Noch kurz, oi wie kurz ist die Zeit von die Karschen, wenn Kleiden geht, salbe zweit wie ein Träum, die Euringlech Gute. Die Karschen von der Liebe und der pure Übersunte, wo es hängen wie Trommens von Blut von einem Bund. Noch kurz, so wie kurz ist die Zeit von die Karschen, wo's gleiten in der Säule wie Korallen in Träumen. Wenn kommen verreich, wird die Zeit von die Karschen, ob schreckt euch der Nopf und Liebe die Pein, sollt freuen ihre Meiden. Ich hab nicht kein Mord, fahre Liebe und Leiden, und Liebe und Leiden, ich komme nicht sein. Wenn kommen verreich, wird die Zeit von die Karschen, euch hier wird der Spüren von Liebe die Pein. Vita Feier, es ist mir die Zeit von die Karschen. Chotschs blutig sind der Mord in Herzen a Wund, a Wund, wo sie ist offen. Nor wo es der euch Glück soll mich haben getroffen, wird kein Mal meine Welt ich nicht werden verstummt. Und lieb ist mir Tonne, die Zeit von die Kirschen, was lebt in mein Herz, ganz tief auf dem Grund.
Justement, Dominique, tu as fait des voyages avec tes élèves, et notamment les élèves racisés, des voyages à Auschwitz.
Oui.
Quelles étaient leurs réactions?
Alors, la question... il y a quelque chose qui me venait dans les voyages à Auschwitz organisés. Je me souviens d'un communiqué du Conseil régional d'Île-de-France qui se vantait du nombre d'élèves envoyés en voyage à Auschwitz en disant... on en a envoyé 9 000 cette année, on en enverra 10 000 l'an prochain, comme s'il y avait une espèce de miracle qui allait se produire à Auschwitz, et que le simple fait d'aller à Auschwitz résoudrait la question du racisme ou de l'antisémitisme. Et donc, je réfléchis là-dessus, et j'initie une démarche que j'ai appelée « amener quelque chose de soi à Auschwitz », avec mes élèves. Il s'agit pour moi de les préparer mentalement à ce qu'ils vont voir, à s'impliquer personnellement, parce que finalement, quand on va à Auschwitz, il y a pas grand-chose à voir. L'endroit le pire, c'est Auschwitz-Birkenau, c'est des baraquements qui ont brûlé, dont il reste simplement l'emplacement qui est marqué par des poutres de bois. Il y a rien à voir. Il y a un étang au fond d'Auschwitz-Birkenau. Il y a rien à voir, sauf que il est rempli des cendres des crématoires. Mais donc, je pense que on ne voit à Auschwitz que ce qu'on amène déjà avec soi. Et donc, mon idée, c'est une préparation mentale des élèves en leur demandant d'amener quelque chose de personnel. Ça peut être un poème, un livre, une peluche, n'importe quoi, et en sachant qu'ils vont le laisser là-bas. C'est l'espèce de rituel que j'ai proposé. L'idée, c'est s'impliquer personnellement. Dans l'avion, on fait circuler une caisse dans laquelle il y a les objets ou livres ou poèmes amenés par les autres, et on y réfléchit. Et puis, là-bas, on laisse cette caisse dans un des baraquements. Et en fait... en ressortant de ce baraquement, on est un peu soulagé, un peu libéré, parce que c'est lourd quand même. Et puis, on sait en partant qu'on a laissé quelque chose de soi là-bas, mais qu'il est loin. C'est pas la peine d'impliquer trop plus que cela les élèves, de leur imposer. J'ai vu des enseignants qui étaient sans arrêt en train de surveiller le moindre rire ou sourire d'élève non, on a le droit d'être un adolescent et de vivre sa vie. Et ça, je pense que les élèves racisés que j'ai emmenés l'ont bien compris. Et je pense que il fallait composer avec ce qu'ils étaient. Et c'est comme ça que j'envisage non seulement la pédagogie de la Shoah, mais la pédagogie en général, sur laquelle j'ai écrit quelques bouquins.
Bon, je pense que c'est une approche intelligente envers la jeunesse, envers tes élèves. Mais au-delà, apparemment aussi, tu as un rôle de formateur envers les enseignants.
Oui. Et moi, je constate que, en fait, l'enseignement de la Shoah, il est parfaitement... exécuté par les enseignants que j'ai rencontrés, et en particulier en ZEP, à condition de ne pas enseigner contre ces élèves, on peut tout à fait, et même, je dirais que le fait de dire que les banlieues, les élèves de banlieue n'accepteraient pas l'enseignement de la Shoah, c'est une manière de renvoyer les musulmans en général à une nature négative qui expliquerait le terrorisme, l'islamisme, etc. Alors qu'en fait, ce qui se passe quand on travaille avec des élèves racisés, c'est que si on part de leurs valeurs, à eux, l'enseignement de la Shoah, il va de soi, et à condition évidemment de ne pas y rester et d'aller aussi ailleurs, d'aller aussi répondre à d'autres questions. Mais c'est évident que je me souviens que avoir débuté des cours en citant quelqu'un qui disait je veux une jeunesse brutale, ma jeunesse effraiera le monde, je ne veux pas d'éducation intellectuelle, la science corromprait ma jeunesse. Je pars de là et je leur demande de deviner qui est le personnage qui a pu dire ça. Évidemment, c'est Hitler. Et la question suivante, c'est quelles sont vos valeurs à vous ? Et si on demande aux élèves quelles sont leurs valeurs, celles qui justifient parfois leur engagement par rapport à la question de la Palestine, c'est des valeurs de justice et d'égalité. C'est des valeurs antiracistes profondément. Et particulièrement parmi les élèves de banlieue. Et donc, partant des valeurs des élèves, on peut faire un travail formidable sur ces questions-là. Et c'est d'autant plus injuste, cette accusation d'antisémitisme contre les jeunes musulmans des quartiers populaires, qu'ils ont effectivement étudier la Shoah. Ils savent l'horreur que ça a été. Et donc, leur mettre ça sur le dos quand ils parlent de la Palestine, c'est évidemment insupportable pour eux. Parce que c'est pas eux. Ils sont pas antisémites. Parfois, ils sont d'un anti-israélisme qui peut déraper sur une expression un peu malencontreuse, mais ils ne sont fondamentalement pas antisémites. Ils sont fondamentalement antiracistes. Et donc, leur faire porter ce chapeau-là, c'est insupportable. Ça explique d'ailleurs que les interventions que nous faisons, les militants de l'UGFP, dans les quartiers populaires, sont accueillies avec une espèce de soulagement. C'est-à-dire, si des Juifs disent ça, qui est aussi ce qu'on pense, nous, de la Palestine, ça veut dire qu'on est exonéré de cette accusation d'être des nouveaux nazis dans les banlieues. Voilà, il y a bien un enseignement de la Shoah et il se fait en France et les musulmans sont tout à fait conscients de cette question.
Merci Dominique. J'en viens à me dire que tu es un enseignant mais aussi tu es un grand écoutant parce que tu écoutes ces adolescents, ce qu'ils ont à te dire aussi de l'actualité déjà parce que toi tu étais d'abord un pédagogue de la Shoah. Puis tu es devenu un solidaire avec eux de l'actualité, des répressions qu'ils subissent, des oppressions. Et aussi, tu en viens à parler de la Palestine, ce qui n'était pas évident pour toi au départ. Et en fait, je pense qu'eux, ils t'incitent à aller plus loin, ils te poussent. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Oui, c'est certain. Mais bon, il faut dire aussi que mon activité pédagogique ne s'est pas limitée à la pédagogie de la Shoah. J'ai, par exemple, publié Oser le travail de groupe, parce que c'est une des modalités qui permet d'écouter, comme tu le dis, les élèves et de leur laisser des marges d'expression. J'ai participé à beaucoup de la formation de pédagogie générale. Alors oui, il me pousse tout autant. Et puis il y a des freins. Il y a des freins parce que mes interventions. J'ai pris quelques positions publiques sur la question de la Palestine et je constate que les interventions sur la Shoah de la LICRA, par exemple, se terminent par une apologie d'Israël. Refuge naturel des Juifs, etc., etc., que moi je juge tout à fait inacceptable. Et comme j'ai pris quelques positions sur cette question, la LICRA commence à lancer des avertissements à des enseignants qui travaillent avec moi, en disant, attention, c'est pas possible de travailler avec lui. Je me heurte à des gens qui, pour qui la défense du sionisme est plus importante, finalement, que l'enseignement de la Shoah. L'apogée de cet épisode-là, c'est quand même la remise du prix Corin à la Sorbonne à la fin des années 90. Je fais un travail avec mes élèves sur la mémoire juive en Soissonnais, avec des interviews, etc., faites avec de survivants ou de témoins avec mes élèves. Et ce livre reçoit le prix Corin contre l'oubli et la banalisation de la Shoah. Et donc, je suis censé recevoir ce prix avec mes élèves dans l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne. Mon intervention va être faite à 2 mètres de l'ambassadeur d'Israël qui est venu en personne. Et je situe simplement le travail sur la Shoah dans un travail plus général, toute une série de travaux sur les violations des droits de l'homme. Et je prononce dans une liste de violations des droits de l'homme, je prononce simplement 4 mots. Je prononce les mots « palestiniens des territoires occupés ». 4 mots. Et là, toute une partie de la salle, il y a une bronca dans toute une partie de la salle, et composée en grande partie de personnes liées au sionisme, et mes élèves qui avaient préparé soigneusement depuis des semaines de petites interventions longuement répétées ne comprennent pas pourquoi le public ne les écoute pas. Ces gens qui protestent contre mon intervention, ils s'en foutent du travail approfondi sur la fait par mes élèves sur la déportation des juifs de Soissons. Ils les laissent à peine s'exprimer, et à la sortie, alors que j'essaye de rejoindre le car où se trouvent mes élèves, je suis vivement pris à partie par le service d'ordre du Bétard.
Tu peux rappeler ce qu'est le Bétard?
Le Bétard, c'est un mouvement de jeunesse sioniste orienté idéologiquement à l'extrême droite et qui sert régulièrement de service d'ordre au CRIF ou dans tout ce genre de manifestations.
Dont le créateur Jabotinsky était un admirateur de Mussolini.
Voilà. Évidemment, il m'interpelle en m'expliquant que la Palestine n'existe pas, enfin, tout un baratin. Bon, il m'interpelle, mais ils peuvent difficilement me casser la gueule puisque je viens de recevoir quand même le prix Corin. Alors, dans la salle, il y avait quelques soutiens, en particulier Mouloud Aounit du MRAP.
Tu peux rappeler ce qu'était le MRAP?
Le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, et qui m'a soutenu et qui publie mon intervention dans le journal du mouvement quelques temps plus tard.
C'était courageux de sa part. D'ailleurs, c'était une très belle personne qui nous a quittés bien trop tôt.
Oui. Alors, dans ces années-là aussi, les années 90, c'est à Soissons, la ville où j'habite, un premier retour sur la question des immigrés, des premières grèves de la faim, en particulier de Kurdes, dans ma ville. Plus tard, je serai un des cofondateurs du collectif de défense des sans-papiers de l'Aisne. Et là, je constate aussi un silence extrêmement gênant et inquiétant de la part d'une partie de la communauté juive organisée, du CRIF en particulier, et en même temps, accompagner ces étrangers à la préfecture m'amène à une prise de conscience que l'antisémitisme n'est plus le racisme majeur de notre société. Il y a encore des crimes de haine insupportables, mais quand on est juif, on vous refuse pas un logement, on vous refuse pas un emploi parce que vous êtes juif, vous n'êtes pas contrôlé 3 fois dans la journée par la BAC, etc.
Dominique, ce deux poids deux mesures te gêne.
Oui, voilà, ça me gêne. Ça me gêne d'autant plus que arrive, si on veut changer un tout petit peu de sujet, le tournant pour moi sur la question de l'antisionisme, je n'ai jamais été vraiment sioniste, mais j'étais plutôt soucieux du sort des Palestiniens, mais de loin. J'ai parlé tout à l'heure de cahiers dans la chaussure. Le tournant, c'est septembre 2000, la deuxième intifada, et là, je signe l'appel « Trop, c'est trop » de l'historienne Madeleine Reberioux.
Et de Pierre Vidal-Naquet.
Et de Pierre Vidal-Naquet, oui. Je me souviens encore du début de l'appel. Hein. « Trop, c'est trop, nous ne pouvons plus supporter l'insupportable, nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable. » Nous ne pouvons plus tolérer que se poursuive le massacre des Palestiniens, l'humiliation de leur peuple, la destruction de leurs biens, la négation de leurs droits. Et dans la foulée, un peu plus tard, en fait, quelques années plus tard, j'adhère à l'UJFP et après 2014, ça devient mon lieu de militantisme majeur, même si je suis aussi un militant syndical, un militant politique d'extrême gauche, voilà.
Ceci est notre message, notre ultime appel à bas, sous le kiboulet de l'Béja. La liberté, la liberté, la liberté, c'est la mort dans nos cœurs. La liberté, la liberté, tout ça nous fait pas peur.
Est-ce que, comme certains, tu considères que finalement, aujourd'hui, dans le paysage français, l'UJFP, c'est peut-être le meilleur rempart contre l'antisémitisme? Tu en as parlé tout à l'heure de l'image qu'avait l'UJFP dans les banlieues.
Oui. Là-dessus, mes élèves m'ont fait avancer, mais l'UJFP aussi m'a énormément fait avancer. J'ai rencontré beaucoup de gens passionnants et j'invite les auditeurs qui voudraient se procurer Parcours de juifs antisionistes en France à lire les autres témoignages. Il y a 22 témoins en tout dans ce livre de juifs antisionistes. Et aussi parce que l'UJFP a un certain nombre de partenaires non juifs qui permettent de remettre le juif que je suis à sa place, c'est-à-dire agir en tant que juif, certes, mais à ma place, toute ma place, mais seulement ma place. C'est pas moi qui décide pour les autres, et je souhaite travailler avec des organisations autonomes de racisés et non pas avec des organisations qui pactisent avec l'État. Hein, on connaît le fameux slogan « Touche pas à mon pote », qui est très très dérangeant parce que, évidemment, il ne laisse pas le pote décider de lui-même de sa lutte. Et c'est pourquoi une des activités principales que j'ai eues à l'UJFP, c'est de favoriser la naissance d'un front antiraciste politique et décolonial qui laisse l'autonomie aux organisations. Ce front, il a été constitué un temps, mais aujourd'hui il a des difficultés à cause de la dissolution du CCIF par le gouvernement, mais il se composait du CCIF pour les musulmans.
Tu peux nous rappeler ce que c'est que le CCIF ?
Le collectif contre l'islamophobie en France, de la Voix des Roms, de la BAN, la Brigade anti-négrophobie, du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Et c'était l'idéal de l'antiracisme pour moi, c'est ça aujourd'hui.
Donc c'est très important de rappeler que l'UJFP, même s'il y a le mot « juif » dedans, ce n'est pas une organisation communautariste. Voilà, hein, c'est très important à rappeler.
Et qu'elle permet de lutter contre toutes les formes de racisme dont
alors,
tu parles maintenant.
Exemple d'intervention de ces organisations, une intervention qui a été faite dans un lycée professionnel de Bois-Colombes, en banlieue parisienne, où il y avait une avocate du CCIF représentant les musulmans. J'y étais pour l'UJFP, il y avait quelqu'un de la Voix des Roms, et il y avait Franco Lolia de la brigade anti-négrophobie. Et on s'est, à quatre, on est intervenu face à toutes les classes de terminale sur deux jours. Donc j'ai donc évolué depuis cette grande période d'antiracisme, de sentiment, d'antiracisme moral. Aujourd'hui, je ne pense plus que le racisme soit, comme on a essayé de me l'inculquer, une pensée qui affecterait des gens peu instruits, qui se laissent aller à des préjugés, tandis que la République, elle, serait magiquement et naturellement antiraciste en oubliant le passé colonial. Je pense qu'il faut qu'on cesse de confondre les préjugés individuels et le racisme. Si mon voisin a un préjugé contre les Juifs et qui me fait la gueule quand je le croise dans la rue, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, le racisme, ça a une importance. Le racisme utilise ses préjugés individuels, mais le racisme, c'est un système de domination. Le raciste, c'est pas mon voisin qui sort une connerie sur les Juifs ou sur les Arabes. Voilà. C'est un gouvernement qui utilise les préjugés pour asseoir un système de domination. L'exemple typique de ça, c'est évidemment la négrophobie. La négrophobie est récente. Comme historien, je sais que dans l'Antiquité, il n'y a pas de mot, par exemple, pour désigner les Blancs. Dans la Grèce antique ou chez les Romains, on ne peut, il n'y a pas de mot. On ne peut pas dire les Blancs. À partir de quand les Blancs par opposition aux Noirs existent-ils? À partir du XVIe siècle. C'est là que commence la traite négrière atlantique. Et le racisme, alors, est un système de domination établi par des gouvernants, c'est Colbert et le Code Noir, par exemple, qui permet la grande culture sucrière, l'accumulation de profits absolument extraordinaires et un développement accru du capitalisme. Et là, on est typiquement dans un racisme d'État que l'État actuel, d'ailleurs, a bien du mal à dénoncer. Hein, Colbert reste notre grand homme dont la statue est toujours devant l'Assemblée nationale. Alors, quand on va parler de ça dans les banlieues, on reçoit en tant que juif un accueil absolument magnifique. Je crois que l'endroit où j'ai été le mieux accueilli, c'est Mantes-la-Jolie, quartier du Val-Fouret. C'est pas le lieu le plus paisible de France, mais bon, je me souviens avoir fait passer un temps à faire des selfies avec des jeunes femmes portant le voile qui voulait absolument être photographié avec un juif parce que tout le débat avait permis de supprimer cette confusion israélien, juif, sioniste, et d'arriver à démêler tout ce nœud-là. Et je pense effectivement qu'en allant dans les quartiers populaires, nous agissons fortement contre l'antisémitisme en faisant ce travail-là.
Tu as absolument raison, et on est plusieurs à avoir été personnellement témoins de ce genre de d'attitude.
Concrètement, avec l'UJFP, si je reprends mes termes, briser le silence et ne jamais être du côté des bourreaux, ça veut dire ne jamais être du côté des racistes, ne jamais être du côté des bavures policières, mais aussi de ne jamais être du côté des assassinats de Palestiniens par l'armée d'occupation. Et ça implique que l'UJFP développe des démarches solidaires contre la dissolution du CCIF. Par exemple, nous sommes allés en justice et c'est pas fini. Nous irons, si besoin est, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en soutien au CCIF qui va avoir un procès contre l'État français. Nous avons soutenu juridiquement Palestine vaincra contre la tentative de dissolution de Darmanin. Nous sommes de toutes les marches des solidarités, des marches de sans-papiers, contre les bavures policières, contre le racisme d'État. Et nous sommes aussi concrètement solidaires des paysans de Gaza en participant à la construction d'un château d'eau, de serres, de panneaux solaires. Ce qui est assez incroyable, c'est que quand on voit les reportages sur la construction de ce château d'eau ou de ces serres agricoles, et on voit que les paysans palestiniens, ils ont choisi d'écrire en lettres de 2 mètres de haut sur le château d'eau les lettres UJFP, et ils se baladent avec des t-shirts de l'UJFP quand ils utilisent la voiture de la structure agricole que l'UJFP a contribué, avec d'autres, évidemment, à financer.
Merci, Dominique, de cette solidarité sans limite que tout ton parcours t'impose et te dispose aussi.
J'aimerais, pour conclure un petit peu tout ton parcours, pour le résumer plutôt, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est ne jamais être du côté des bourreaux, fussent-ils juifs.
Oui, c'est ce que j'ai écrit effectivement.
Oui. Merci beaucoup, Dominique. Et on va rappeler sur le site de l'émission...
Le nom du livre.
Le nom du livre, il y a un parcours de juifs antisionistes en France, et puis aussi peut-être d'autres publications de l'UJFP, parce qu'il y en a beaucoup.
Une parole juive.
Oui, par exemple, et puis aussi peut-être inciter les auditeurs à aller sur le site de l'UJFP, ils y trouveront quantité d'informations sur l'actualité à la fois en France, dans le monde, et bien entendu en Israël et Palestine. Donc, pour nos auditeurs ici, dans notre ville, notre région, ils peuvent trouver le livre, notamment à la librairie Plume, qui en dispose d'un certain nombre. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Dominique. Je crois que ça a été très, très riche et que ça va intéresser nos auditeurs.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. La 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 la
La da 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 da